Vous écoutez France Inter, il est 19h. Le journal, bonsoir Sébastien Pao.
Bonsoir à tous. Les gestes déplacés du représentant du pape à Paris, des mains aux fesses sur un cadre de la mairie. Enquête ouverte pour agression sexuelle. Le nonce apostolique n'en serait pas à son premier dérapage, nous serons à Rome. Sans doute une mise en examen pour le Syrien arrêté en France, il aurait participé à des tortures sous le régime de Bachar el-Assad. Au sommaire également ce soir, lycéens et étudiants dans la rue contre le réchauffement climatique. Les mentions parents 1 et parents 2 peut être remplacés dans les formulaires. Trump qui décrète l'urgence nationale pour construire un bout de son mur à la frontière mexicaine. Le retour de Zep dans une BD futuriste. Et puis le temps, le week-end sera très beau. L'Église catholique n'avait sans doute pas besoin d'une lumière supplémentaire sur ses dessous. Au moment où une conférence sur la pédophilie a lieu dans une semaine au Vatican, où la sortie du film de François Ozon sur les scandales sexuels à Lyon est menacée en justice, et où sort un livre enquête sur l'homosexualité non dite des prélats de Rome. Voilà qu'on apprend que l'ambassadeur du pape en France est lui aussi visé par une enquête pour agression sexuelle. Un trentenaire, cadre de la mairie de la capitale, dit avoir subi plusieurs attouchements de la part du nonce apostolique. À Paris, des mains aux fesses appuyées pendant une cérémonie de vœux à l'hôtel de ville en janvier. Le parquet a ouvert une enquête. Bonsoir Mathilde Imberti.
Bonsoir.
Vous êtes à Rome, Mathilde. Et d'après vos informations, Luigi Ventura aurait eu le même type de geste avec d'autres personnes.
J'ai recueilli un témoignage en particulier qui laisse penser que le nonce n'en est pas à ses premiers gestes déplacés. C'est un jeune homme proche de l'église qui raconte que Monseigneur Ventura lui a mis la main aux fesses, puis une fois assis pour un entretien, a laissé sa main longuement sur sa jambe. C'était il y a quelques semaines à l'Annonciature à Paris. Pas d'avance verbale, précise-t-il, mais des gestes qui se seraient répétés avec d'autres jeunes hommes, des amis de notre témoin. Aucun d'entre eux n'a porté plainte. À Rome, le Vatican a réagi et rapidement à l'ouverture de cette enquête. Un mail laconique nous est parvenu en début d'après-midi. Nous avons appris qu'une enquête est ouverte. Nous attendons ses résultats, écrit le directeur de la salle de presse. Luigi Ventura est un diplomate chevronné. Le poste d'ambassadeur à Paris, un poste prestigieux dans la diplomatie vaticane. Ce prélat du nord de l'Italie y a accédé en 2009 après avoir sillonné la planète en tant que nonce en Afrique, puis au Chili et au Canada. À Paris, il occupe une double fonction, à la fois chargé de représenter le Saint-Siège auprès de l'État français et chargé des relations entre Rome et l'Église catholique française.
Et en tant qu'équivalent de l'ambassadeur du pape, il bénéficie de l'immunité diplomatique. Merci Mathilde Imberti en direct de Rome. Quant à François Ozon, il saura lundi si son film « Grâce à Dieu » sur le scandale de pédophilie au diocèse de Lyon sort bien mercredi en salle. Il raconte l'affaire Prena, ce prêtre accusé d'agression sexuelle par plusieurs anciens scouts dans les années 80 et 90, et la naissance de l'association La Parole Libérée. Le prêtre mis en examen, mais pas encore jugé, demande que son nom soit retiré du film, dont la sortie est donc prévue mercredi prochain.
France Inter, le journal de 19h. Sébastien Paour.
Le Syrien arrêté mardi en région parisienne doit être présenté à un juge d'instruction ce soir. L'homme d'une trentaine d'années est soupçonné d'avoir torturé pour le compte du régime de Bachar el-Assad entre 2011 et 2013 en Syrie. Il a été interpellé en même temps que deux autres compatriotes en Allemagne dans le cadre d'une opération commune des deux pays. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
Des arrestations grâce au rapport César et au témoignage de réfugiés.
Oui, César, c'est le surnom de cet ancien photographe de la police militaire syrienne qui a fui le pays avec des milliers de photos des supplices infligés dans les prisons du régime. Il y a 3 ans, le parquet de Paris ouvre une enquête. Au nom de la compétence universelle pour les crimes les plus graves, les crimes contre l'humanité, un certain nombre de responsables sont identifiés, mais ils sont hors d'atteinte, même si quelques mandats d'arrêt ont été émis. Et puis, il y a un an, un signalement arrive de l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés, au sujet de ce demandeur d'asile de 30 ans qui vit en région parisienne. L'homme aurait travaillé dans une prison des services secrets de Damas, où la torture et les exécutions sommaires ont été pratiquées à grande échelle. Enfin, le dossier s'est enrichi de témoignages de victimes réfugiées en Allemagne, où se trouvent 2 autres suspects interpellés cette semaine. Alors, on ne sait pas encore précisément quels faits peuvent être reprochés aux suspects parisiens, mais ils devraient être mis en examen dans la soirée et le parquet de Paris a requis son incarcération.
Merci Sarah Guibaudot. Le procès de l'aide-soignant d'Arcueil est reporté lui au 22 mars. L'homme filmé en train de frapper une vieille dame dans une maison de retraite a demandé un délai pour préparer sa défense. Il va rester d'ici là en détention provisoire. Lui avait rendez-vous au tribunal ce matin pour organisation de manifestations sans déclaration préalable. Éric Drouet, tête connue des Gilets jaunes, visage barbu et cheveux ras. Le chauffeur routier de 34 ans est jugé pour deux rassemblements à Paris les 22 décembre et 2 janvier où il a été interpellé. Le procureur a requis un mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende. Son avocat Kéops Lara dénonce un procès politique.
Les réquisitions sont en dehors de toute réalité. Vous avez vu les conditions de l'interpellation, ces images qui sont fortes, de ces gens qui circulaient librement, pacifiquement, qui demandaient juste à se réunir. On n'est pas du tout dans l'image des casseurs et de ce qu'on vous a présenté peut-être jusqu'à présent sur le fameux mouvement caché, complotiste. On n'est pas du tout là-dedans. Et au contraire, moi j'ai vu des gens d'un grand courage qui se sont fait embarquer et qui tiennent pour le moment le coup. Il était venu déambuler, faire en petit comité un dépôt de bougies. Vous savez que c'est retransmis après sur Facebook live de toute façon. Et après, se rendre avec d'autres amis dans un restaurant pour discuter de la suite du mouvement. On ne parle pas d'une manifestation, juste de se réunir. Je crois, et je le dénonçais parmi les premiers en disant qu'il se passait quelque chose d'inhabituel avec Éric Drouet dans l'utilisation de la justice à son encontre, que ce n'était pas seulement lui, mais que c'était bien un mouvement qu'on essaie de discréditer, et vous en avez eu la preuve aujourd'hui.
L'avocat d'Éric Drouet au micro de Louis Ducroquet et Corinne Audouin. Le jugement sera rendu le 29 mars. Un homme de 20 ans gravement brûlé au visage et au bras tôt ce matin à la station de métro Bastille sur la ligne 1 à Paris. Il pourrait avoir été aspergé d'acide. Il est à l'hôpital. Son agresseur en fuite. Il s'agit vraisemblablement d'un différend entre deux personnes sans domicile.
Le gouvernement a répondu à la pétition L'affaire du siècle.
Un argumentaire d'une dizaine de pages envoyé aux ONG et aux plus de 2 millions de signataires qui accusent l'État d'inaction climatique. Les associations devraient néanmoins déposer un recours juridique le 15 mars. En attendant, place aux jeunes contre le réchauffement climatique dans le sillage de la Suédoise Greta Thunberg et notamment des Belges le jeudi. Et sous les fenêtres du ministère de François de Rugy à Paris, plusieurs centaines de lycéens et d'étudiants, Adrien Toffolet, qui sont en grève pour le climat.
Des bandeaux verts accrochés aux bras, dans les mains, des pancartes avec marqué « Non-assistance à planète en danger ». Des centaines de jeunes sont amassés sur les trottoirs, bloquant parfois la circulation sur le boulevard. Parmi eux, Anakin, un lycéen de 15 ans qui entend mettre la pression sur le gouvernement.
Par respect pour nous, les générations à venir, ils doivent limiter au moins la casse et faire leur maximum pour qu'on n'ait pas des conséquences trop lourdes et impossibles à affronter, quoi.
Ils ne sont que quelques centaines pour cette première grève scolaire devant le ministère, peu importe pour Chloé, 24 ans, qui est persuadée que ces mobilisations partout dans le monde ont un impact.
On a vu à travers l'exemple de Greta Thunberg, la Suédoise, que oui, l'adolescente est capable de mobiliser, qu'elle est capable d'être visible sur la scène internationale, et on a envie de montrer qu'on n'attend pas que les choses se passent.
Et visibles, ils l'ont été. Après une demi-heure de sitting, une porte s'ouvre.
Bonjour à toutes et à tous.
La secrétaire d'État, Brune Poirson, prend la parole.
Derrière ces portes-là, contrairement peut-être à ce que certains peuvent penser, vous n'avez pas des adversaires, mais des alliés. Et dans certaines des choses que vous êtes en train de dire, je partage une partie de vos conclusions.
Les organisateurs de l'action sont invités dans son bureau au bout d'une heure d'entretien. Aucune avancée, regrette Jules Spector, le secrétaire général du syndicat FIDL.
On a décidé qu'on allait entamer un dialogue global avec la jeunesse de manière régulière. Peut-être dans le cadre du grand débat, ce sera à voir. Mais globalement, il n'y a pas eu de réelle avancée.
Et le rendez-vous pour la deuxième grève scolaire est déjà pris la semaine prochaine, même heure, même endroit.
Et 1, 2, et 3 degrés.
Ces jeunes français et anglais en grève pour la planète sont en photo sur le site de France Inter. C'est un amendement qui a fait beaucoup parler cette semaine à l'Assemblée. Amendement La République En Marche, adopté mardi en première lecture dans le cadre du projet de loi pour une école de la confiance. Celui qui officialise l'homoparentalité dans les formulaires scolaires. Vous savez, ces mentions père et mère qui seraient remplacées par parent 1 et par parent 2. Eh bien, la mesure pourrait évoluer, Sonia Princel, et les mentions pourraient changer.
Il s'agirait de mettre dans la première case « père-mère » et de rayer la mention inutile et dans la deuxième case du formulaire « père-mère à nouveau ». La droite s'était opposée à l'amendement initial et n'est toujours pas convaincue, comme l'explique Frédéric Reiss, député Les Républicains et orateur pour le groupe.
Aujourd'hui, on va sans doute revenir sur le sujet et la suggestion de la majorité et de la rapporteure, c'est de remplacer parent 1 par à la fois père-mère et parent 2 aussi par père-mère. Ou mère-père, j'en sais rien, dans quel ordre on va le mettre, pour qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans les deux responsables de l'enfant. Maintenant, moi, à titre personnel, je suis totalement opposé à ça. Et moi, père et mère, ça me convient parfaitement. Si ça se représente, je voterai contre.
Mais du côté de la majorité, la nouvelle formule risque de ne pas convenir à tous. La députée La République En Marche, Anne Brunira, propose d'autres mentions.
Moi, personnellement, je trouve les réactions un peu disproportionnées, parce qu'on ne nie pas du tout que chaque enfant a un père, une mère, mais il y a aussi des familles homoparentales, il y a des familles divorcées, il y a des familles de veufs, de veuves, des enfants qui ont des tuteurs. Et en fait, moi, je trouve que l'appellation responsable légal 1 et 2 correspond à l'ensemble, en fait, des familles. C'est ça le plus important. À l'école, on a besoin de savoir qui est le responsable légal, le premier qu'on appelle quand il y a un accident, quand il y a un souci. Et c'est à la famille, en fait, de décider qui est le responsable légal 1 et responsable légal 2.
L'amendement pourrait être revoté cette nuit. À l'Assemblée nationale, Sonia Princey, France Inter.
Emmanuel Macron instaure une journée d'hommage aux victimes du terrorisme le 11 mars. La date commémore déjà la journée européenne de l'attentat djihadiste le plus meurtrier en Europe. C'était à Madrid le 11 mars 2004. 191 morts. Jean-Luc Mélenchon sera mardi soir au Rassemblement contre l'antisémitisme, rassemblement organisé par le PS, place de la République à Paris et dans plusieurs villes de France, auxquelles la France insoumise disait ne pas avoir été invitée. 14 partis politiques seront représentés. Seul le Rassemblement national n'a pas été convié, mais le parti de Marine Le Pen dit soutenir toutes initiatives pour condamner l'antisémitisme. Ce sera le sujet du téléphone sonne à 19h20, Claire.
Absolument, et vous pouvez nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000. Donald Trump confirme qu'il va décréter l'urgence nationale à la frontière mexicaine.
Pour financer le mur qu'il veut construire pour arrêter ce qu'il nomme l'invasion de migrants en situation illégale, c'est une procédure exceptionnelle qui lui permet de contourner le Congrès et de débloquer les fonds nécessaires. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
Mais ça c'est la théorie car la partie est loin d'être gagnée.
Oui, et Donald Trump sait d'ailleurs que cette procédure d'urgence va être attaquée immédiatement devant les tribunaux par les démocrates. Je m'y attends, a dit le président américain. On ira sans doute jusqu'à la Cour suprême, mais je finirai par gagner, dit Trump, parce que il nous faut ce mur, il nous faut répondre à ce que Donald Trump qualifie d'invasion.
D'une façon ou d'une autre, nous allons le faire. Pas parce qu'il s'agissait d'une promesse de campagne, même si c'est le cas. Alors, je vais signer un décret d'urgence nationale. Il a déjà été utilisé auparavant. On parle d'une invasion de notre pays, avec de la drogue, avec toutes sortes de criminels et gangs. Alors, nous allons signer aujourd'hui ce décret d'urgence, et c'est la bonne chose à faire.
Voilà, les murs, ça marche à 100%, martèle encore le président américain en citant l'exemple de la barrière de sécurité mise en place par Israël avec les territoires palestiniens. Alors Sébastien, en promulguant cette urgence nationale, Trump espère pouvoir débloquer immédiatement 8 milliards de dollars, le milliard 3 qui se trouve dans le compromis budgétaire voté hier soir par le Congrès, plus 6 milliards 7 que l'administration va chercher ailleurs, notamment dans le budget de la défense. Et 8 milliards devraient permettre de lancer rapidement 370 kilomètres de barrière à la frontière. Trump est donc combatif, il veut ce mur. En signant l'accord budgétaire du Congrès, il évite donc un nouveau shutdown, une paralysie des administrations. Mais il sait aussi qu'avec cette procédure, il entame immédiatement un nouveau bras de fer avec les démocrates.
Grégory Phillips en direct de la Maison-Blanche. Merci Grégory. Ce seront les troisièmes législatives en 3 ans et demi. Le chef du gouvernement espagnol convoque des élections pour le 28 avril après le rejet mercredi de son projet de budget. Pedro Sanchez est en poste depuis à peine 8 mois à la tête du gouvernement le plus minoritaire de l'histoire du pays. Alors que peut-il se passer fin avril? Le parti Vox d'extrême droite pourrait former une coalition. Début de réponse avec Marie-Hélène Ballestero à Madrid.
Vox était jusqu'à il y a quelques mois un parti pratiquement inexistant, 0,2% aux dernières élections législatives en juin 2016. 2 ans et demi plus tard, la situation a complètement changé. Au mois de décembre, Vox a fait une entrée fracassante au Parlement andalou avec près de 11% des voix et 12 sièges. En quelques mois, l'Espagne a cessé d'être une exception européenne, un pays où l'extrême droite n'avait aucune représentation parlementaire. Vox a même réussi à nouer une alliance en Andalousie avec le Parti populaire et Ciudadanos, une alliance inédite et polémique qui pourrait se répéter dans d'autres régions et villes espagnoles, mais aussi au Parlement lors des prochaines élections législatives. En fonction des sondages, Vox pourrait obtenir de 6,5 à 10% des voix et faire son entrée au Parlement espagnol. Le succès de Vox inquiète Ciudadanos, mais surtout le Parti populaire. Ils redoutent une fuite massive de leur électorat le plus conservateur. C'est pourquoi les deux formations n'ont pas hésité ces derniers temps à durcir leur ligne et à employer un discours de plus en plus radical pour tenter de freiner l'exode. Mais cela risque de donner des ailes à Vox. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
L'ambassadeur de France est rentré à Rome une semaine après son rappel par le Quai d'Orsay pour protester contre les attaques verbales des dirigeants populistes italiens. Il a remis au président italien Sergio Mattarella une invitation d'Emmanuel Macron pour une visite d'État en France dans les prochains mois. Premier rendez-vous avec la presse aujourd'hui pour Jean-Bernard Lévy, reconduit à la tête d'EDF hier pour un second mandat. Il présentait les résultats du géant de l'électricité pour 2018 et il a aussi dessiné, Delphine Simon, l'avenir de l'entreprise.
L'objectif, c'est de conserver dans le giron public les trois quarts de la production d'électricité, le nucléaire et l'hydraulique, regroupés dans une entité sous le contrôle de l'État et d'un autre côté, les activités dans le solaire et l'éolien qui seraient filialisées. Cela doit permettre de sécuriser le risque du parc nucléaire, très coûteux à entretenir et peut-être même à financer de nouveaux EPR, ces réacteurs de nouvelle génération, car les plus anciens atteignent les 40 ans. L'avantage, c'est de desserrer la pression financière sur le groupe très endetté qui peine à financer ses grands travaux, mais cela fait hurler les syndicats maison qui dénoncent un démantèlement et une privatisation larvée d'EDF. Le patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy, s'en défend.
Nous investissons dans des centrales nucléaires qui vont durer 60 ans, mais nous investissons aussi dans des infrastructures de proximité, dans les communes, avec les métropoles, avec les départements, et ce sont des investissements de nature très différente. Le gouvernement nous a demandé si on ne peut pas optimiser un petit peu ces investissements en s'organisant différemment. Mais le gouvernement a pris soin de dire EDF restera un groupe intégré. Donc ça veut dire par exemple que les salariés vont garder leur statut et pourront continuer à aller d'une société à l'autre, quelle que soit la formule qui est retenue.
Les salariés d'EDF seraient donc moins malmenés que les cheminots de la SNCF. Une mission délicate pour Jean-Bernard Lévy qui vient d'être reconduit. Le gouvernement attend ses propositions d'ici la fin de l'année.
Une nouvelle médaille pour Alexis Peintureau aux Mondiaux de Åre en Suède. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir Sébastien.
Le skieur de Courchevel décroche le bronze en géant.
Oui, champion du monde du combiné lundi, 37 ans après le président de la Fédération française de ski, Michel Vion. Il aurait pu devenir ce soir le premier champion du monde en géant après Jean-Claude Killy en 1968. Il doit donc se contenter de cette médaille de bronze. En tête après la première manche, le skieur de Courchevel a conservé sa première place jusqu'à la mi-course avant de commettre une petite erreur sur le replat pour franchir la ligne en troisième position, sans nourrir trop de regrets, derrière le nouveau champion du monde norvégien Henrik Kristoffersen et l'Autrichien Marcel Hirscher, deuxième. Touché au genou en début de semaine, le Savoyard estime avoir tout tenté aujourd'hui pour aller chercher ce second titre. Mais compte tenu des conditions, avec une neige rendue délicate par le redoux, le sel utilisé pour préparer la piste, Alexis Peintureau goûte vraiment avec gourmandise sa deuxième médaille dans ses championnats du monde, un an après les Jeux de Pyeongchang, où il s'était paré d'argent et de bronze. Cette moisson à Åre n'est peut-être pas terminé pour lui. Alexis Peintureau va s'aligner aux côtés de Clément Noël après-demain dimanche dans le slalom messieurs, la dernière épreuve de ces mondiaux. Il fera partie des candidats au podium après sa deuxième place à Schladming, juste avant ses championnats du monde, où il a signé son troisième podium de la saison dans cette spécialité.
Peintureau en bronze, en géant. Merci Fabrice Rigobert. On termine avec le retour de Zep. À peine un an après The End, écoulé à plus de 40 000 exemplaires, le créateur de Titeuf revient avec Paris 2119, une BD d'anticipation. Jacqueline Pétrose avec le dessinateur Dominique Berteil.
Le futur paraît bien froid et sombre. Tristan et Chloé vivent dans un monde de technologie, de sécurité drone et de reconnaissance faciale. On voyage en transcorps qui désintègre et reconstitue où l'on veut aller. Fascinant et génial. Mais Tristan trouve son époque inquiétante, surtout quand il découvre qu'à chaque utilisation, le transcorps fait perdre au voyageur un peu de son humanité. Quant au clonage, il est généralisé et ne permet pas d'être certain de parler à la bonne personne. Un aspect de l'histoire qui, pour Zep, n'est plus vraiment de la science-fiction.
On est dans une société un peu à deux vitesses. Et à la fois, il y a toute la recherche qui avance très très vite et puis il y a l'éthique qui met toutes sortes de barrages de tous les côtés en disant attention, attention. Mais on voit bien que les commissions d'éthique sont débordées, elles vont moins vite que la recherche. Donc évidemment, on va aller vers des choses comme ça, oui. On voit déjà qu'en Chine, où ils s'embarrassent assez peu de l'éthique, ils arriveront à des résultats de duplication de vivants assez vite.
Gris acier, brun, bronze, troué de couleurs, Dominique Berteil nous fait évoluer dans un Paris familier et surprenant.
Trois esthétiques, le vieux Paris de l'époque qui ne changera jamais et qui est toujours là, un art du futur qui est déjà passé dans l'histoire, qui a mal vieilli aussi, et puis une esthétique un peu plus contemporaine. Quand on se promène dans Paris, on constate les strates tout le temps. J'adore ça dans les villes.
Paris 2119 est une anticipation glaçante à portée de main, mais c'est aussi une belle histoire d'amour. Et là, la cybersociété n'y peut rien changer.
Paris 2119, c'est signé Zep et Dominique Berteil et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Avant la météo, Claire, merci à Henri Bérec et Ronan Mahé qui étaient toute cette semaine à la technique des journaux de 13, 18 et 19 heures de France Inter.
Et merci à vous Sébastien Paour. Dans un instant, le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Du soleil et de la douceur en vue.
Et oui, un réveil souvent sous un ciel bleu demain matin. À peine quelques grisailles ici ou là, un peu plus près de la Garonne, vers le nord-ouest. Sûrement un peu plus tenace sur le sud de la Bretagne. Sur le Languedoc-Roussillon, là, le vent de sud-est apportera toujours des nuages assez nombreux le matin. Il n'en restera plus que quelques-uns l'après-midi sur l'Aude. On aura un vent d'autan jusqu'à 70 km à l'heure. Encore dégelé le matin, mais l'après-midi de la douceur. Comme aujourd'hui, 11 à 16 degrés au nord, 15 à 20 au sud. Les 20 degrés du côté de Clermont-Ferrand ou alors de Biarritz.
Et dimanche, même programme.
À quelques détails près, sur le Languedoc-Roussillon, des nuages un peu plus nombreux, autour un vent d'autan qui se renforcera jusqu'à 80 km à l'heure. Sur la Bretagne, là c'est la nouveauté, on aura un ciel qui va s'ennuager et quelques gouttes possibles. Des gelées moins nombreuses le matin et on les trouvera essentiellement dans l'Est. Et puis l'après-midi, ce sera toujours doux, une moyenne de 14 degrés au nord et de 16 au sud.
Comme un beau week-end en perspective.
Très beau week-end en perspective.
Merci mille fois Élodie Calac de Météo France.